Bonjour, amiral Pierre Mondier. Merci d'être avec nous. Je dirais bienvenue. Vous êtes chef d'état-major de la marine. Vous êtes responsable de la présence militaire française dans l'Atlantique, en Méditerranée, surtout dans le Pacifique. On en parla tout à l'heure. Mais d'abord, cette mort d'un soldat français, Maxime Blasco, caporal-chef, en opération au Mali contre le terrorisme qui se développe dans cette partie de l'Afrique et en Afrique. Un soldat est un soldat. Donc vous pouvez en parler.
Voilà, je voudrais témoigner de toute ma compassion pour ses camarades, pour sa famille, pour ses frères d'armes de l'armée de terre. C'est un soldat qui avait déjà combattu au Mali. J'étais présent lors de sa remise de décoration précédente, qui a commis des faits d'armes absolument exceptionnels. Et donc c'est effectivement une perte terrible pour son régiment, le 7e bataillon de chasseurs alpins. Et c'est un homme extrêmement valeureux que nous avons perdu.
Il y en a beaucoup comme lui qui combattent. Et ça veut dire que l'Afrique est un enjeu. Le Mali, le Burkina Faso et d'autres pays africains menacés par la poussée du terrorisme ou peut-être de l'islamisme de certains groupes.
Les armées françaises sont très engagées donc dans le dispositif, ce qu'on appelle la BSS, la bande sahélo-saharienne, sous cette grande bande de désert qui est au centre de l'Afrique. Et donc les forces françaises et européennes sont très engagées dans le contre-terrorisme dans cette zone.
Mais si l'armée française se retire, même progressivement, il y aura des conséquences. Et peut-être même sur le sol français.
Actuellement, le dispositif est en train d'être réarticulé, c'est le langage militaire, c'est-à-dire qu'on change la nature de notre présence. C'est-à-dire qu'actuellement, c'était des grandes opérations de ratissage et de contre-terrorisme, et le dispositif va évoluer vers une présence plus forte à côté des troupes africaines pour les former et pour les entraîner vers le combat.
Et la vigilance est indispensable sur tous les continents. Alors l'affaire des sous-marins n'est qu'une partie des rivalités, des menaces et en même temps des stratégies dans la zone indo-pacifique. Quel est l'enjeu aujourd'hui? Qu'est-ce qui se joue là-bas?
Dans cette zone immense qui comporte 60% de la population mondiale et dont le PIB, le produit intérieur brut, c'est 60% du PIB mondial, il se joue là-bas une partie du sort du monde.
En ce moment,
l'équilibre qui est en train d'être recherché entre les États-Unis et la Chine fait l'objet de beaucoup de frictions aujourd'hui dans cette zone.
Et naturellement, ça nous concerne. Comment la Chine amplifie et accélère-t-elle sa puissance sur et sous les océans?
Alors, pendant plusieurs siècles, la Chine a tourné le dos à la mer. Des empereurs au XIVe siècle ont brûlé tous les vaisseaux en disant « le danger, c'est la mer ». Et dans le livre blanc… –
Le danger, c'est la terre, l'arrivée des invasions par la terre.
– Voilà, c'est la muraille de Chine.
– Et ils ont brûlé toutes les jonques.
– Voilà, c'est ça. On a tué l'amiral qui commandait la flotte et on a brûlé tous les bateaux. Dans le livre blanc chinois en 2003, les Chinois disent « on ne commettra pas la même erreur ». Et donc à partir de 2003, ils développent de manière massive le commerce. Donc c'est ce que vous connaissez à travers les routes de la soie, donc qui assure le commerce qui va jusqu'en Europe par le canal de Suez. Et ils développent leur marine militaire qui croît de manière extrêmement rapide.
Simplement, la Chine, c'est combien de navires?
Donc aujourd'hui, c'est de l'ordre de 350 navires. Les Américains sont à 400-450. Et aujourd'hui, donc, ils sont en train de les rattraper. Ils mettent à l'eau une frégate par mois, un sous-marin par an et un porte-avions tous les 3 ans.
Les Américains et nous, c'est beaucoup plus lent, si je peux dire. Et les rapports des forces, nous?
Alors nous avons une marine qui se renouvelle avec la loi de programmation militaire. Nous allons avoir tous nos sous-marins qui vont être renouvelés dans les 2 prochaines décennies. Nous sommes actuellement en train de faire les essais d'un nouveau sous-marin, le Suffren, qui était le même proposé à l'Australie sans sa tranche nucléaire.
Le Barracuda.
Barracuda.
Et il y a un deuxième en préparation.
Le Duguay Trouin qui va être mis à l'eau probablement en fin d'année.
Chacun des deux veut donc aller et tenir au garde à vous presque les alliés, créer des bases et en même temps occuper des îles. Il n'y a pas de frontières. Quand on regarde la carte, on a l'impression que c'est la jungle.
Alors, la grande force ou la faculté de la mer, c'est de mettre des gens en communication. Ça s'appelle un espace commun. Vous pouvez circuler de manière quasiment continue du canal de Suez à Shanghai sans rencontrer personne qui vous empêchera d'y aller. Voilà, c'est l'immensité de la mer qui le permet. Et donc, effectivement, le développement maritime permet d'exercer une puissance de forme nouvelle en mettant des pays en contact les uns avec les autres par le biais des forces maritimes et du commerce.
Mais est-ce que la liberté de navigation est respectée?
Alors,
on a l'impression que non.
C'est tout l'enjeu aujourd'hui de ce qui se passe en mer de Chine, où on assiste à une territorialisation de la mer de Chine.
Ça veut dire
que vous prenez un atoll sur lequel il y a des palmiers, et puis vous bétonnez l'atoll, vous mettez une piste, vous mettez des dépôts de munitions, et vous revendiquez les eaux territoriales qui sont autour. Donc 24 km autour, et vous dites, c'est à moi, vous ne rentrez
c'est
pas.
C'est ma frontière. Voilà. Et les autres font la même chose. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une montée en puissance de deux géants face à face. Deux géants.
Les Américains ne privatisent pas la mer de Chine. Eux, les Américains respectent le droit international. Aujourd'hui, la difficulté est effectivement en mer de Chine, où les Chinois, à plusieurs endroits, prennent des atolls et en font des bases et des ports et des aéroports.
Et les navires, qu'est-ce qu'ils font? Ils se frôlent, ils se rapprochent, ils se regardent?
Alors aujourd'hui, ça se surveille. Donc les escadres différentes, américaines, chinoises, se surveillent, s'écoutent. Beaucoup de renseignements et puis du rapport de force qui s'exerce à travers des démonstrations. Et ces démonstrations, c'est principalement des grands exercices. Vous avez un exercice qui s'appelle RIMPAC, qui se fait tous les deux ans, qui est un exercice phénoménal où les Américains font venir tous leurs alliés pour faire une démonstration de force.
Les Français aussi.
Nous y participons.
Pourquoi vous parlez de logique d'étouffement ?
Bien, en fait, tout l'enjeu pour la Chine, c'est de réussir à déployer sa puissance sans provoquer de guerre. Donc, ils avancent un peu comme au jeu de Go, en retournant des pions progressivement, en mettant la pression sur des alliés proches, des pays qui, petit à petit, glissent dans le camp chinois et abandonnent le camp américain.
J'ai vu que depuis le mois de juin et pour deux ans, vous présidez ce qu'on appelle en français le symposium des marines de l'océan Indien. Les marines de quels États? Vous êtes nombreux, là?
Alors, il y a 24 pays
et à quoi ça sert?
Riverains de l'océan Indien, donc qui vont de la côte ouest de l'Afrique, de l'Asie, de l'Inde, et puis d'un bout du Pacifique.
Mais qui y a dedans ?
Et alors, ce sont des chefs d'état-major des marines. Donc, ce sont mes homologues. Donc, j'ai par exemple un Iranien, j'ai un Malaisien, j'ai un Indien, j'ai un Australien. Et donc, tous ces pays sont rassemblés dans un symposium qui, pendant deux ans, j'exerce la présidence de ce symposium que j'ai reçu de l'Iran. Et donc, nous discutons de sujets consensuels.
Parce que l'Iran, y participe.
L'Iran est membre, puisqu'il y a des pays du Golfe, il y a le Qatar. Le Russe est observateur, comme le Chinois.
Ah, et les États-Unis?
Et alors, donc, cette institution a été créée par l'Inde et les membres ont toujours refusé que les États-Unis en fassent partie.
Et qu'est-ce que ça implique pour la marine française? Combien d'hommes vous avez? Combien de bases? Et à quoi ça sert de sous-marin? Par exemple, je lisais qu'il y a un sous-marin qui s'appelle l'Émeraude qui est parti pour une campagne de longue durée.
Alors, dans l'océan Indien et dans le Pacifique, nous avons des forces de présence, des forces de souveraineté. C'est à peu près 7000 militaires, une trentaine d'avions et une dizaine de navires de surface de la marine qui sont à La Réunion, à Nouméa et en Polynésie. Et à ces forces qui sont permanentes viennent des déploiements occasionnels, par exemple le déploiement du groupe aéronaval ou le déploiement du sous-marin Émeraude que vous citez, qui est parti de Toulon en septembre 2020. Et qui est arrivé au retour à Toulon.
C'est-à-dire 8 mois de campagne.
8 mois de campagne.
Avec un arrêt pour les sous-mariniers de peut-être 2-3 mois.
Alors on a
changé d'équipage, je suppose. 8 mois, c'est impossible.
Alors on a renouvelé l'équipage à Guam, sur une base américaine, avant que le sous-marin revienne.
Et est-ce que vous ne redoutez pas l'intimidation, de la provocation et une agression un jour?
Alors tout l'enjeu d'aujourd'hui, si vous voulez, la militarisation de l'espace maritime en Pacifique est considérable. La montée en puissance de la Chine, évidemment, inquiète tout le monde. Et le grand débat entre militaires, c'est l'erreur de calcul. C'est quelqu'un fait quelque chose que les autres ne comprennent pas et ça provoque une montée d'agressivité.
Et on dit qu'il y a des effets des changements des océans et dans les océans avec des conséquences sur le climat, la sécurité, etc.
Alors, ce que nous discutons dans le symposium des marines de l'océan Indien, ce sont ces sujets-là qui nous concernent tous. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la guerre de demain, mais on parle des ennuis d'aujourd'hui et de demain. Les vrais ennuis, c'est le réchauffement des océans qui modifie le plancton, modifie l'endroit où sont les poissons, donc modifie les flottilles de pêche. Elles vont à d'autres endroits. Et donc, évidemment, il y a des frictions sur l'endroit où on pêche. Il y a des problèmes de climat avec des événements climatiques dramatiques, des cyclones, des tsunamis. Et donc, nous discutons du rôle des marines militaires pour venir aider les populations.
Mais sur le climat, quels effets?
Eh bien, c'est la montée des eaux. Donc, vous avez, par exemple, au Bangladesh, des inondations de plus en plus considérables.
Mais qu'est-ce que vous faites? De la prévention et de quelle nature?
Eh bien, c'est la mise en commun des moyens d'assistance aux populations. Donc, c'est ce que la marine française a fait à plusieurs reprises dans le Pacifique ou en Atlantique, aux Antilles, après des événements cycloniques.
Et il y a naturellement un développement de la prolifération des armes nucléaires. Est-ce que c'est un danger ou la dissuasion nucléaire est un gage de, je ne peux pas dire de sécurité ou de paix, mais de calme momentané?
Alors, entre les gens qui disposent des armes nucléaires, il y a réellement un code de compréhension, puisque ces armes sont tellement puissantes que leur emploi n'est pas envisageable. Donc, entre la Chine et les États-Unis, la guerre nucléaire n'est pas
oui,
une
option.
Oui,
mais tout pour un conflit. Tout est en place pour un conflit.
Mais vous avez ce qu'on pourrait appeler la grande guerre patriotique, ce qu'ont connu nos concitoyens. Aujourd'hui, elle est rendue pas possible par les armes nucléaires. C'est tellement destructeur qu'on n'emploiera pas ça, ou en tout cas, on ne le souhaite pas.
Il y a face à face les deux géants dont on a parlé. Nous, qu'est-ce que nous faisons pour essayer d'aller jusqu'à un équilibre de ces forces si on y arrive?
Alors la voie suivie par la France et par le président, c'est la voie du dialogue. C'est la voie de discuter des vrais problèmes avec les riverains, de manière à ce qu'on s'entende. Parce qu'au bout du bout, qui est la guerre ou qui n'est pas la guerre, il faudra se parler. Et donc c'est vraiment la voie du dialogue. Et donc le symposium que nous présidons est un des exemples des initiatives de la France et de l'Europe dans ce domaine.
Dans le journal Le Monde hier, la ministre de la Défense, Florence Parly, dit que la fiabilité de l'Amérique n'est plus aussi grande qu'avant. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas fiables, on ne peut pas leur faire tout à fait confiance. Qu'est-ce qu'on fait ?
Nous avons des relations qui sont tout à fait correctes avec la marine américaine. Nos pilotes de chasse sont formés aux États-Unis. Nous employons un certain nombre de matériel américain. Et nous avons eu des relations, par exemple, dans le Golfe Persique, qui sont de qualité. Donc, en tout cas, sur le plan militaire, nous avons des coopérations qui sont tout à fait satisfaisantes.
Dernière question, amiral Pierre Vandier. La mer, pourquoi on dit qu'elle est porteur de démocratie ?
Alors, la mer, en fait, c'est le commerce maritime. C'est des flux considérables. Aujourd'hui, chaque jour dans le canal de Suez passe l'équivalent de un an de ce que vend Rungis. Tous les jours. C'est 250 000 containers tous les jours. Donc évidemment, c'est des richesses considérables. Et en fait, ça transforme les peuples. Ça a été très, très bien théorisé.
C'est-à-dire que la Chine prend des risques. Elle peut aller vers la démocratie à travers la mer.
Voilà, le choix de son livre blanc de 2003, c'est de prendre le risque de s'ouvrir sur le monde.
Merci d'être venu, amiral. C'était éclairant et passionnant. Je pense que, et j'espère que vous reviendrez. Merci à vous.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Cabache.